L'audience est ouverte.
L'audience est ouverte. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons rendez-vous aujourd'hui encore avec, je vous appelais maître le mois dernier encore, eh bien désormais ce sera Philippe Arbouge. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour Christophe.
Nous allons évoquer aujourd'hui les acteurs de la justice. Ils sont nombreux et c'est bien normal. Pour que la justice suive son cours, il faut des juges, bien entendu, des avocats, cela va de soi, des procureurs. Et là, le grand public aura peut-être besoin d'être éclairé sur les prérogatives des procureurs. Idem pour les greffiers. Et puis, bien entendu, nous évoquerons le personnel de la pénitentiaire dont on parle peut-être trop peu. Philippe, merci d'être encore une fois fidèle au rendez-vous dans les studios Chartrain de Radio Rentiel. Je vous rappelle à nos auditeurs que vous êtes avocat pénaliste avec derrière vous de nombreuses années de pratique des arcanes judiciaires. C'est dire si votre science va grandement accroître nos lumières. Alors, nous allons peut-être commencer par évoquer les différentes sortes de justice. Justice administrative, justice judiciaire. Qu'en est-il ?
Eh bien, bonjour. Tout d'abord, de nouveau, et le plaisir est aussi pour moi d'être à ce micro. Faisons le point un petit peu, effectivement, sur les différents tribunaux qui existent et ce qu'on appelle l'organisation du système judiciaire. Deux grandes branches, la justice administrative et la justice, on va dire, judiciaire. Alors, le tribunal administratif juge les litiges, donc les différends, qui opposent une personne privée ou une personne publique à l'État ou à une collectivité territoriale. Je donne un exemple très simple. Un arrêté municipal dit que votre rue va être maintenant fermée toute la journée et toute la nuit pour devenir piétonnière. Est-ce que c'est normal ? Eh bien, pour savoir si cet arrêté et a été pris conformément à la loi, la liberté d'aller et venir, on va saisir le tribunal administratif. Bien. Pour nous, habitants de Chartres et de Eure-et-Loir, le tribunal administratif est à Orléans. Par contre, ou plutôt à côté et en même temps, lorsqu'on a un litige, un différend qui oppose deux personnes privées, eh bien, la compétence est du tribunal judiciaire. Tribunal judiciaire, c'est maintenant son nom. Vous vous en souvenez peut-être, il y a assez peu de temps, puisque c'est une réforme qui date de 2019. Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance ont fusionné.
Ça n'existe plus, ça, alors ? Plus de TGI, plus de TGI.
Voilà, c'est un changement de nom. Évidemment, les compétences sont restées. Et il faut toujours statuer sur les litiges, les désaccords entre les parties. Et c'est maintenant le rôle du tribunal judiciaire. Ouais. À mes yeux, c'est un simple changement. Enfin, c'est un changement de nom.
Mais c'était quoi la différence, finalement, entre le TGI et le TI ?
C'était un problème de hauteur et de compétences. Il y avait des litiges qui ne pouvaient être traités qu'au tribunal d'instance, et d'autres qu'au tribunal de grande instance. Un exemple, par exemple, le divorce, c'était de la compétence du tribunal de grande instance. Le surendettement, c'était le tribunal d'instance. Voilà. Maintenant, c'est un seul tribunal, le tribunal judiciaire, mais bien évidemment, il va y avoir des chambres spécialisées et des juges spécialisés qui existaient déjà auparavant, parce que on peut pas traiter dans la même journée des affaires aussi différentes à la queue leu-leu, allais-je dire.
Juste une question avant qu'on aborde peut-être la figure du juge. Hein, pour qu'un tribunal fonctionne, il faut combien de personnes, en fait, à peu près ?
Un certain nombre.
Mais c'est impressionnant, je veux dire, c'est une machine, c'est un paquebot, quoi.
Oui, c'est. Les grands tribunaux sont des paquebots. Alors en fait, un tribunal est divisé en chambres. Les chambres, ça signifie une compétence spécialisée. Une première chambre va être spécialisée dans la responsabilité civile, dont nous serons amenés à reparler les prochaines fois. Une autre chambre dans le droit de la famille, dont nous allons parler dans une prochaine émission, etc., etc. Ouais. Donc vous avez certains tribunaux dans lesquels il y a plusieurs chambres, plusieurs dizaines de chambres, ah oui. À Paris, à Lyon... À Marseille, à Bordeaux, il y a beaucoup de chambres parce qu'il y a beaucoup d'affaires. Tribunal de Chartres, deux chambres.
Deux chambres.
Une chambre droit de la famille et une chambre autre. Ça, c'est pour les affaires civiles. Et pour les affaires pénales, on dit que le tribunal correctionnel siège dans les locaux du tribunal judiciaire. Ouais. En fait, c'est un seul et même lieu.
La différence, donc, entre la justice civile et la justice pénale, c'est quoi exactement, en fait ?
La justice civile traite des litiges entre particuliers, dans lesquels il y a un désaccord et on demande au juge de trancher, de dire qui a raison et qui a tort.
D'accord. Mais il n'y a pas de peine au bout ?
Il n'y a pas d'infraction. D'accord. La grande différence, c'est qu'au pénal, pour qu'il y ait du pénal, pénal égale peine, hein, si on va jusqu'au bout du pénal, on est puni, c'est la peine, la sanction. Pour ça, il faut qu'il y ait une infraction. Il faut qu'on ait violé un texte légal. On ne doit pas rouler trop vite. On ne doit pas faire du bruit à partir d'une certaine heure. On ne doit pas taper, frapper, etc.
Voilà, il y a une victime, quoi, forcément.
Il y a un texte. Ouais. Et pas forcément une victime. Il n'y a pas forcément une victime. C'est ça qui est assez... Quand vous roulez trop vite, y a-t-il une victime ?
Oui.
Bah non. Non. Mais le texte vous interdit de rouler trop vite. Hein. Nullum crimen nulla poena sine lege.
Oh, que c'est beau. Ah, c'est beau.
Je la refais.
Ah, oui.
Nullum crimen nulla poena sine lege. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas de peine s'il n'y a pas de texte.
Oui. Et donc, à contrario, par exemple, la justice civile, un problème de clôture, un problème, voilà, entre
c'est
les propriétaires.
Voilà, c'est ça. Okay. C'est ça.
On parle des juges, figure imposante que celle du juge en France, qui donne une impression de toute puissance, souvent, je trouve.
Oui. Eux ne sont pas toujours de cet avis. C'est sûr que pour le justiciable, c'est toujours impressionnant.
Ouais.
Le juge, d'abord, parce qu'avec le juge, il y a le décorum de la justice. Il y a les robes, il y a les lieux, il y a ce qu'on a mis en début de cette émission. L'audience est ouverte. Ouais. Veuillez vous lever.
On sent tout petit, là. Hein.
Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Oui, c'est compréhensif. Hein. C'est compréhensible, pardon. Alors, les juges. On va parler de l'institution judiciaire, parce que c'est peut-être la plus connue. Nous reviendrons, si vous le souhaitez, à un moment donné sur l'administratif. Le judiciaire, c'est le plus connu. On a deux catégories de juges. On a le juge qui juge et le juge qui requiert, qui demande une peine. Tout simplement, la deuxième catégorie, ça s'appelle les procureurs. Le procureur.
Ah d'accord. Le procureur, c'est un juge, en fait.
C'est un juge.
Ah d'accord.
C'est un juge. La formation de ces juges est la même, qu'ils soient les juges qui jugent ou les procureurs. Tous et toutes passent par l'École nationale de la magistrature. L'École de la magistrature, c'est un concours très difficile qui est tenté et réussi à la fin des études de droit. Donc lorsqu'on a ces 4 années, mais en fait c'est souvent 5 années de droit, on tente le concours de la magistrature. Et si on est reçu, on fait un certain nombre d'années d'école à Bordeaux, École nationale de magistrature, et l'on sort juge. Alors, en fonction de son rang, on choisit le poste qu'on aimerait occuper dans un premier temps.
Au total, donc, c'est combien d'années d'études ? 5 ans de droit et...
Et 2 de travers.
Donc, au bout de 7 ans ?
7 ans, oui.
Ah, oui, on peut être juge au bout de 7 ans.
Oui. Ce qui fait que c'est assez jeune.
Oui.
Ce qui fait que vous avez des sujets brillants, parce qu'effectivement, faut pas être sot. Hein, des gens qui ne redoublent pas, qui passe le bac à 18 ans et qui, 18 et 7, se retrouve à 25-26 ans en capacité et dans l'obligation de juger les autres. Il faut être solide, et il faut une solide formation. Vous le savez, en ce moment, l'École de la magistrature est un peu sur la sellette. Notre bon garde des Sceaux a réfléchi à sa disparition. Bon, j'entrerai pas dans cette discussion, c'est pas le propos ici, mais cette formation-là est une formation costaude. À noter quand même que de plus en plus de juges, énormément, viennent aujourd'hui de l'extérieur, c'est-à-dire ont fait des études de droit, mais ont eu un autre métier. On recrute aujourd'hui beaucoup de gens qui ont des métiers très différents, fonction publique, privée, etc., etc., avocats. Estimant par là que l'expérience
aide. C'est important, quand même. Évidemment. Et puis une forme d'humanité aussi, de compréhension de l'humanité.
Voilà. Depuis, venir d'autres horizons. Hein, oui. Quand on a un ancien, un ancien travailleur social. Je me souviens d'une juge d'application des peines qui avait été assistante sociale pendant 30 ans et qui a été juge d'application des peines. C'est... Voilà, c'est une richesse.
Ouais.
Une richesse.
Donc le pouvoir du juge, exactement, en fait. Parce qu'il y a le jury aussi, c'est normalement... C'est ça que je ne comprends pas.
Alors, le jury, c'est dans un cadre très particulier, c'est la cour d'assises.
Ah, d'accord.
C'est la cour d'assises.
C'est uniquement la cour d'assises.
Uniquement la cour d'assises. Quand nous évoquerons le pénal pur, nous parlerons de la cour d'assises.
D'accord.
Le juge, c'est un personnage qui est, dont le métier est de juger. Après, il y a des spécialités dans un tribunal judiciaire... Vous avez des juges spécialisés, le juge d'affaires familiales, le juge des enfants, le juge, autrefois le juge d'instance, aujourd'hui un juge qui va reprendre les litiges d'une certaine importance, d'une moindre importance peut-être. Bon, tous ces juges ont une fonction spéciale, mais tous sont magistrats ou juges. Point. Point. Il n'y a pas de distinction, de hiérarchie, on pourrait dire, à ce moment.
On va peut-être évoquer les greffiers.
Alors là, c'est... Oui. Alors, un petit mot quand même sur le procureur, parce que vous m'aviez lancé sur cette idée. Oui. Le procureur, c'est celui ou celle qui demande une peine au nom de la société. Nous en reparlerons plus longuement quand nous parlerons du pénal.
Oui. Hein.
Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un super flic.
C'est un super flic.
Bon, voilà. Bon. Ils n'aimeront pas. Hein. S'il y a des procureurs à l'écoute, là, ça va bavarder. Mais non, mais c'est pas faux. Oui. On en débat, en tout cas.
Oui.
Les greffiers.
Les greffiers, oui.
Extrêmement important. Sans greffier, pas de juge. Le greffier est celui ou celle qui est chargé d'authentifier ce qui s'est passé à l'audience. Les greffiers prêtent serment. Il y a une école des greffiers et où on apprend la procédure. Le rôle du greffier est très sous-estimé, à mes yeux, dans le système judiciaire français. Ce sont eux qui font tourner la machine, très concrètement. Le juge doit rendre une décision, le greffier l'assiste, et ce n'est pas un simple secrétaire. C'est celui ou celle qui va authentifier par sa présence ce qui s'est passé à l'audience.
D'accord. Donc
un rôle très important.
Sacrée responsabilité.
Très important. Les greffiers en chef, par ailleurs, sont ce qu'on appelle les DRH aujourd'hui, on va dire, du tribunal, hein, en plus d'autres fonctions.
Voilà.
Et puis, n'oublions pas le personnel, les faisants fonction, comme on dit, tout le personnel de justice qui concourt à l'œuvre de justice et dont il faut vraiment saluer le sérieux et l'authenticité. Enfin, moi, je suis très admiratif, voilà. Car ce sont souvent des tâches ingrates, parfois. Et sans ce personnel, la machine ne tourne pas. Vous parliez d'un paquebot. Tout le monde a son rôle et sa fonction. On parle toujours du juge, mais... C'est dommage qu'on ne parle pas plus des petites mains, et il n'y a pas de mépris dans mon propos.
C'est ce qu'on appelle les auxiliaires de justice.
Non, c'est le personnel du tribunal.
C'est le personnel
les auxiliaires
du
de justice, c'est une autre catégorie. D'accord. Ce sont celles et ceux qui ont une fonction dans la machine judiciaire, par exemple les avocats.
D'accord. Ah, on va parler des avocats.
Ah,
bah oui, il faut parler des avocats.
Alors, les avocats sont celles et ceux qui sont chargés de défendre les intérêts de leurs clients, que ce soit des particuliers ou que ce soit des sociétés, que les clients soient des auteurs de faits coupables ou qu'ils soient des victimes. L'avocat suit aussi des études de droit, c'est le même processus. Et au lieu de tenter l'école de la magistrature, il tente l'école du barreau.
L'école du barreau.
Les écoles du barreau, il y en a une dizaine en France. Et ce concours donne lieu, c'est un concours, hein, donne lieu à une formation spécialisée dans une école du barreau avec des stages... en entreprise, mais aussi dans les cabinets d'avocats, etc., à l'issue desquels on peut prêter serment.
Combien d'années ?
Dans ma génération, c'était 2 ans.
2 ans.
2 ans. Ouais. Avec alternance stage et formation théorique.
Ouais.
Plus les années de droit, bien sûr. Bon, généralement, c'est 8 ans. Hein, on est comme les juges, quoi.
Les qualités requises pour être un avocat, ça, c'est... On est toujours fasciné par le verbe,
ouais,
évidemment.
Ouais. Les qualités, je pense que c'est l'honnêteté, la rigueur et la loyauté. Quoi. Après, tant mieux si on s'exprime correctement, c'est toujours plus facile.
On parle d'effet de manche, par exemple. C'est très beau.
Ah, oui, bien sûr. C'est bien, c'est très bien. Mais de très grands avocats ne faisaient pas d'effet de manche. Et j'ajouterais même que les très très grands avocats, enfin ceux à qui que je considère comme tels, personnellement, ne sont pas forcément des orateurs. Je me souviens d'un avocat d'assises qui ne plaidait pas magnifiquement, mais à l'issue de sa plaidoirie, on était extrêmement ému et touché, parce qu'il avait su mettre en avant simplement des propos d'une humanité transperçante, vraiment. Ouais. C'est un confrère qui est décédé. J'étais en arrêt, nous étions en arrêt en écoutant ce confrère,
ouais.
qui, encore une fois, est presque bègue, presque. Ouais. Oui.
Il y a l'avocat de la partie civile et l'avocat de la défense. Hein.
Ce sont les mêmes. Nous sommes.
On peut indifféremment être les deux.
Voilà. Alors, il y a eu des écoles de pensée qui disaient qu'on ne pouvait pas à la fois défendre les victimes un jour et défendre l'auteur le lendemain. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Je pense que il faut bien connaître ces dossiers. Pour bien défendre une victime, c'est quand même utile de connaître. Ouais. L'auteur, de savoir la psychologie de ce qui se passe en face.
Les auxiliaires de justice, assez rapidement, qu'est-ce qu'on appelle un auxiliaire de justice ?
Ceux qui contribuent au fonctionnement du système judiciaire. Alors, il y a les auxiliaires considérés comme tels, les avocats, les huissiers, et puis il y a aussi les professions...
Les huissiers sont des auxiliaires de justice.
Oui, tout à fait. Ils ont une fonction officielle. Le notaire, par exemple, n'est pas un auxiliaire de justice au sens juridique du terme. Bon, il a une fonction, mais ce n'est pas un auxiliaire. Mais il y a des gens qui ne sont pas véritablement des auxiliaires en tant que tels, mais dont le métier est extrêmement important. Je pense à tous les gens qui travaillent à la protection judiciaire de la jeunesse, à la pénitentiaire aussi.
La pénitentiaire, donc les agents, peut être les gardiens de prison, directeur de la prison.
C'est ça. Et puis il y a des agents qui sont à la pénitentiaire en milieu fermé. Prison et en milieu ouvert.
En milieu ouvert, oui.
Eh bien oui, ceux qui suivent les personnes condamnées, qui, une fois sorties de prison, ont des obligations, par exemple.
Les éducateurs.
C'est le SPIP, on appelle le SPIP, c'est le nom du service. Très important dans le système. Le système judiciaire, s'il se contentait de rendre une décision et puis vogue la galère, ça ne servirait à rien.
Parce que quand ils sortent de prison, il faut les réhabiliter, les aider en tout cas.
Les aider à retrouver un travail et puis s'assurer d'un suivi. Quand il y a, par exemple, une obligation d'indemniser les victimes, eh bien il faut bien qu'on s'assure que la personne remplit cette obligation.
Et ça, c'est le SPIP. Qui le fait.
Ça, c'est le SPIP. Voilà. Ça, c'est le SPIP. Alors, il y a une multitude, mais il y a beaucoup de services. Je cite les plus importants, ceux qui me traversent l'esprit. Pardon pour les autres. Mais tous ces gens concourent véritablement au fonctionnement de la justice.
Ouais.
Et on en parle, selon moi, pas assez ou pas bien, parfois.
Alors, la PJJ, donc, protection judiciaire de la jeunesse, qu'est-ce que c'est exactement, le rôle de la PJJ ?
Lorsqu'un mineur est en cause... et notamment en matière pénale, il faut s'assurer de qui il est, de ses conditions de vie, de comment il fonctionne, dans quel milieu il évolue, etc. Et il y a pour ça des spécialistes, des travailleurs sociaux, on va dire, qui sont chargés de faire des rapports qu'ils transmettent au juge, soit au juge pénal, soit au juge civil, pour voir où en est ce mineur et quelles sont... ses possibilités d'évolution, ses chances de réhabilitation et surtout son évolution. Un mineur, c'est quelqu'un qui est encore en progression dans sa tête, souvent. Et ces gens-là sont d'une aide très, très précieuse.
Donc c'est l'aide sociale à l'enfance, c'est des associations
l'aide
comme la DSEA
Ce n'est pas la PJJ. L'aide sociale à l'enfance, c'est encore autre chose. Ça dépend, là, du conseil départemental. Mais c'est important que vous le citiez, effectivement, parce qu'ils ne concourent pas à l'œuvre de justice directement. Mais sans eux, pas de lieu pour accueillir les mineurs, souvent.
On va écouter un peu de musique. Adriano Celentano. On va en Italie. Oui, oui. Pourquoi Adriano Celentano ?
Pour apporter un peu de douceur dans ce monde de bruit.
Quel vestito da dove è sbucato? Che impressione vederlo indossato? Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più. La tua Barbie è da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato, e vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu,
lo specchio, il trucco, il seno in su, e tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E tanto il tempo se ne va, e non ti senti più bambina, si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. E tanto il tempo se ne va, tra i sogni e le preoccupazioni, le calze a rete ho preso già, il posto dei calzoni. Ma una figlia è una cosa speciale. Il ragazzo.
Nous venons d'écouter Adriano Celentano, mon accent est pourri, mais j'ai un grand plaisir d'adopter comme ça l'accent italien. Nous sommes avec Philippe Arbouche dans l'émission L'audience est ouverte et nous évoquons aujourd'hui les acteurs de la justice. On n'a peut-être pas été exhaustif parce que le temps nous manque. Mais nous arrivons dans la seconde partie de cette émission que les auditeurs aiment beaucoup, car nous parlons d'un procès célèbre. Et aujourd'hui, quelle affaire ? L'affaire Landru.
Oui.
Rafraîchissez-nous la mémoire, Philippe.
Alors, j'ai pris en fait trois petites affaires, je vais essayer d'évoquer rapidement. C'est pas tant pour la personnalité de Landru et le procès lui-même que pour la personnalité des personnels des juges, dans un premier temps d'abord de l'avocat. Hein, si on parle de Landru, j'ai souhaité évoquer la personnalité d'un avocat prestigieux, extraordinaire, Moro Giafferi. Nous sommes dans les années 1920, et Moro Giafferi, c'est encore un nom qui, au barreau, résonne. C'est l'archétype du pénaliste. On en a eu un certain nombre comme ça, le grand pénaliste. Vous parliez des faits de manche.
Vous étiez pénaliste,
oui,
hein, Philippe.
Oui, mais c'est gentil, mais Moro Giafferi, la référence, c'est-à-dire que c'est une époque aussi. C'est une époque. Plaider pour Landru, vous pouvez l'imaginer, c'est pas...
Hein, c'est pas gagné.
C'est pas gagné. D'ailleurs, ça n'a rien de gagné, puisque finalement, c'est perdu. Mais voyez, on a retenu quand même la personnalité de Moro Giafferi, bien que Landru soit condamné à mort, puisqu'il a été reconnu coupable. Hein. Je vous rappelle qu'il y a 10 femmes assassinées. Mais la personnalité de ce genre d'avocat, de ses confrères, est telle qu'on a retenu. C'est-à-dire qu'en fait... La qualité de la défense, à la fois par les qualités oratoires, mais également l'humanité, faire ressortir de quelqu'un comme Landru de l'humanité, vous imaginez.
Il n'est pas que l'auteur de crimes, c'est aussi
un crime. C'est ça. Et sans dire n'importe quoi. On a tendance à dire les avocats font du cinéma, du théâtre, c'est n'importe quoi. J'ai jamais entendu Moro Giafferi, et pour cause, je l'ai pas connu. Mais les avocats... vraiment qui savent défendre des causes complexes, etc., sont souvent des gens qui ont un grand talent oratoire, mais qui, surtout, sont humbles et proches de leurs clients. Or, dans cette affaire, Landru, à chaque question du président, avait des réponses toutes prêtes.
Oui,
ça faisait l'ironie et la joie du public. Hein. Il y avait des objets appartenant aux femmes disparues, etc., etc. Landru plaisantait. Et lorsque on lui demandait pourquoi, Landru répondait « Ma vie privée ne regarde que moi ». Évidemment, bon, pour cause. Et on a eu un avocat général, donc un procureur, qui a requis aussi contre Landru, qui était d'une remarquable habileté, puisqu'il y a eu plusieurs incidents tout à fait notoires. Et Moro Giafferi, on dit qu'il a eu une défense des plus talentueuses. Et moi, Landru, son client, a été condamné à mort. Mais c'est pour insister sur le fait que ces auxiliaires de justice marquent quand même leur époque, marquent ces grands. Alors, je vous avais dit que j'allais prendre d'autres exemples. Deuxième affaire, j'ai choisi une affaire en 1926, une affaire en Italie, l'affaire Matteotti. L'affaire Matteotti se résume par, quand on prend les documents qui en parlent, sur des juges compréhensifs. entendez par là des juges acquis au pouvoir. On est à la montée en puissance de Mussolini, et il y a un député qui est assassiné. Il est évident, toutes les preuves sont accablantes, qu'il s'agit d'un sbire fascisant qui a assassiné cette personne. Mais comme on est sur les montées du fascisme, les juges de cette époque, 1924, oublient complètement cet homme-là, qui n'est pas condamné. Quid de l'indépendance de la justice ? On a retrouvé une période noire en France, qui est quand même la période de la guerre.
De la guerre, pendant l'occupation.
Ah oui, pendant l'occupation.
Les juges...
On a eu des juges qui ont été extrêmement conciliants, pour ne pas dire davantage, avec le régime de Vichy.
Des vichysois.
Très peu de juges ont démissionné. Ouais. Très peu de juges. C'est une tâche dans la magistrature. C'est une époque.
Et puis, ils se sont retrouvés, je crois, à la Libération, en train de juger ceux qui...
La réforme qui s'en est suivie, une des réformes qui s'en est suivie, est aussi pour cette raison.
Qu'est-ce qu'on peut dire de Jacques Isornier, par exemple, celui qui a, qui a défendu Pétain?
Défendre Pétain...
Il en fallait un.
C'est ça. Et c'est la noblesse aussi de ce travail que d'aller chercher chez l'individu. En l'occurrence, chez Pétain, c'était compliqué, car c'était quand même un grand homme. Et puis... Puisque le temps passe et vous me l'avez dit, et vous avez raison, je voulais parler un tout petit peu, si on en a encore le temps, de la procédure anglaise, parce qu'on a toujours un peu de mal à comprendre le système français. Enfin, on en parlait la dernière fois, il y a cette différence avec le système anglo-saxon. En Angleterre, ou dans le système anglo-saxon, la fonction d'avocat occupe la place centrale. C'est-à-dire que y a un solicitor qui s'occupe des dossiers et de la procédure, et seul le barrister peut mener la plaidoirie. Autrement dit, on a encore une séparation entre ce qui s'appelait en France les avoués et les avocats. Certains préparent les dossiers et d'autres les plaident. Et parmi les barristers, donc on dirait les avocats les plus réputés, les plus éminents, sont recrutés les juges. Donc vous voyez, le système de recrutement est différent. Ouais. On passe tous par l'avocature, pourrait-on dire, et seuls les plus éminents, les plus compétents, sont recrutés comme juges. Et on a des jurés comme en France, mais les représentants de la défense et les représentants de l'accusation sont les personnages essentiels. Et on a un avocat qui représente l'accusation. Donc vous voyez, le système est différent. Au lieu qu'on ait un juge qui juge et un procureur qui demande une peine, dans le pénal bien sûr, et un avocat qui défend, là ce sont des avocats qui, l'un de l'accusation et l'autre de la défense.
Il y a de grosses différences entre le droit, enfin la justice anglo-saxonne par exemple et la justice française.
Oui, essentiellement parce que le juge n'a pas la même fonction. Ouais. Le juge n'est pas celui qui préside comme en France, mais c'est celui qui arbitre.
Moi, je suis toujours étonné de voir aussi que il suffit de verser une caution, par exemple, pour être libre, pour l'accuser.
On a aussi ce système en France, qui n'est pas, et c'est à mon avis à notre honneur, qui n'est pas très utilisé, parce que les plus riches dans ce cas partiront.
Mais on a un
système de caution en France. Ouais. Oui, les juges n'aiment pas tellement l'utiliser. Personnellement, ça me choque pas. Ouais. Mais ça peut fonctionner.
Ouais.
Bon, les rares fois où j'ai dit. Je propose une caution pour mon client. Le juge a dit non. Mais c'est pas l'usage. Voilà.
C'est pas l'usage. Merci beaucoup, Philippe. On arrive au terme de cette émission. On se retrouve bien évidemment le mois prochain pour un nouveau numéro de l'Audience est ouverte et on parlera de famille, du droit de la famille. Merci.
Merci à vous.
À Simon Martin en régie technique et restez fidèles au programme de Radio Rancière, la radio qui, je vous le rappelle, rapproche les hommes.